Actu SF, les podcasts.
Bonjour, merci d'avoir sauté votre repas pour être avec nous sur cette table ronde où on va parler Québec et Canada. Vous savez, tous les ans, les Imaginales reçoivent une délégation et c'est l'occasion de découvrir d'autres imaginaires, d'autres auteurs. Qu'on a souvent aussi en France. On a un joli panel d'auteurs et d'autrices. Je vous propose dans un premier temps, on va d'abord explorer un peu les univers de chacun. Et puis après, notamment avec Jean-Louis Trudel, on parlera un petit peu plus de la situation du Québec en général et du Canada en général. Puis après, j'ai plein de questions et puis ce sera à vous. Et puis après, on ira manger et boire. Voilà, ça me semble un programme tout à fait satisfaisant. Donc, à mes côtés, Jean-Louis Trudel, qui est ici. Voilà. Juste à ses côtés, Elisabeth Von Harburg, que vous avez sans doute déjà croisée. Patrick Sénécal, donc, plutôt thriller, un petit peu de fantastique, on verra ensemble. Sébastien Chartrand. Je m'en voudrais de vous manger le prénom. Caroline Georges, juste à côté. On a pu voir Sous Béton il n'y a pas longtemps, qui vient de reparaître chez Folio. Et puis Steven Erickson. Hein, avec notamment une grande série de fantasy qui redémarre en France, et Romain Roy qui va assurer la traduction entre Steven Erickson et nous-mêmes. On se fait un petit tour d'horizon de chacun des auteurs, et puis après on ouvre un petit peu. On commence avec vous, Caroline Georges, avec notamment Sous Béton.
Bonjour.
Bonjour. Un livre qui a d'abord été édité aux éditions Alto.
Oui, hein, en 2011.
En 2011. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous le présenter?
Oui, c'est un huis clos dans un édifice sans ouverture aucune sur l'extérieur. On rencontre une famille. En fait, le texte est présenté du point de vue du narrateur enfant qui nous parle de sa situation extrêmement oppressante dans un édifice de béton total, et il expérimente une très 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 grande oppression complète, absolue, de la part de ce qui reste de sa civilisation, de sa famille, et tout ça va conduire à une nécessité de transformation, et c'est à cette transformation-là qu'est convié le lecteur.
Comment est née un peu l'idée de ce roman pour vous?
À la fin du 20e siècle, lorsqu'on a commencé à parler en vrac là, de l'extinction accélérée des espèces, du réchauffement climatique, des mégavirus, enfin, on a posé un mur apocalyptique devant nous assez précis. Et moi, j'ai eu envie d'aller jusqu'au bout de ça. J'ai eu envie d'aller à l'autre extrémité de cette catastrophe annoncée. Et en même temps, j'avais un intérêt à ce moment-là pour les écrits des philosophes évolutionnistes du début du 20e siècle, deux philosophes plus précisément, Aurobindo en Inde, qui s'est intéressé au supramental, qui pour lui, l'être humain est un être de transition et nous sommes conviés à trouver une manière de transcender notre état biologique pour atteindre une autre dimension d'expérience. Et il y a aussi Teilhard de Chardin, ici en France, qui s'est intéressé à ce qu'il nomme la christogénèse, et c'est-à-dire une forme d'évolution accélérée par une coalescence des consciences qui se tisse de plus en plus serrée. En fait, on parle souvent de lui comme du père d'Internet parce qu'il a vu cette espèce de réseau de conscience qui allait se créer éventuellement. Et je me suis intéressée à ces formes, ces images du devenir de l'être pour écrire Sous Béton.
D'accord. Voilà. Entre fantastique et science-fiction, si on devait définir un genre?
Je sais pas. Je laisse les spécialistes se prononcer à ce sujet.
Ouais, c'est pas très important au final, hein, quand même. Sébastien, à côté de vous. Sébastien, vous avez un cycle qui s'appelle Le Crépuscule des Arcanes, qui vous a notamment valu le prix Aurora Boreal 2014. Je vais y arriver. vous reprenez un certain nombre d'éléments du Québec entre histoire et mythologie.
Oui,
racontez-nous
tout à fait.
Un petit peu tout ça.
Ma démarche s'inscrit surtout dans la recherche historique à prime abord et la recherche folklorique. Donc, on est dans une fantasy qui suit l'histoire de très, très, très près. En réalité, elle n'en déroge absolument pas. Tous les événements historiques qui s'y passent sans être modifiés, altérés, de quelque façon que ce soit, c'est pas du tout une uchronie. Néanmoins, il y a des trous, Il y a des vides dans ce qu'on a de notre histoire. Puis ces vides-là, j'ai décidé de les combler par l'usage du surnaturel en me basant sur le légendaire fantastique, que ce soit les histoires rapportées par nos coureurs des bois ou par nos Premières Nations.
D'accord. C'est quoi ces trous dans l'histoire? Vous pouvez nous donner un exemple?
Oui, par exemple, il y a à Québec, il y avait le shérif Sewell qui était le shérif de la ville, qui, disait-on, faisait venir chez lui des voyantes, des tourneurs de table, des spirites de toutes sortes. Le clergé s'est mis à enquêter, parce qu'à l'époque, le clergé avait droit à ses propres enquêtes. Puis, ça a soulevé tout un petit scandale. Il y a eu quelques correspondances à ce sujet-là. Puis, subitement, on a arrêté d'en parler. Alors que les choses montaient un peu tranquillement, puis qu'il commençait à y avoir une effervescence sur le sujet... on a subitement arrêté d'en parler. Puis on ne trouve pas de trace de comment ce litige-là s'est réglé. Donc je suis entré dans cette zone d'ombre-là pour élaborer une partie de mon intrigue.
D'accord. On va passer la parole à Patrick Sénécal. Alors pareil, lui c'est plutôt les zones d'ombre que vous explorez. À la fois thriller, un petit peu de fantastique. Et on a plusieurs livres qui sont notamment parus chez Fleuve Édition. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail?
En fait, le lien commun entre tous mes romans, je pense, moi je dis que je fais du roman noir. Alors là-dedans, il y a du polar, il y a du thriller, il y a de l'horreur, il y a du fantastique. Ici, il y a Alice devant moi, Alice qui est en fait une reprise d'Alice au Pays des Merveilles, mais une version assez trash, assez hardcore d'Alice au Pays des Merveilles, parce que je trouvais que l'original avait déjà beaucoup de potentiel de trucs extrêmes. D'ailleurs, je suis loin d'être le seul auteur qui est inspiré par Alice au Pays des Merveilles. Il y a eu plein de trucs sur Alice au Pays des Merveilles. Alors là, dans ce cas-là, c'est du fantastique. Mais en fait, je décide pas au départ si ça va être du fantastique, de l'horreur ou quoi que ce soit. J'ai une idée et en l'écrivant, je me rends compte que ça risque d'être plus du fantastique. Ça va être de l'horreur, ça va être du thriller. Je me dis pas, bon, là, faut que je fasse un roman fantastique. C'est vraiment l'idée qui va arriver, qui va décider enfin de quel genre il s'agit.
Et souvent dans le thriller ou le fantastique, on explore plutôt les zones d'ombre, ce qui fait peur. C'est ça qui vient en premier dans l'idée ou est-ce que dimension épouvante arrive après?
Oui, non, la dimension épouvante arrive après. Puis, certains de mes romans ne sont pas des romans d'épouvante. Alice, je ne considère pas que c'est un roman d'épouvante. Je ne vois pas qu'est-ce que... je l'ai lu, mais c'est pas... Comment dire? C'est pas un roman qu'on fait « Oh mon Dieu, j'ai peur ». Il y a quelques scènes terrifiantes, mais c'est plus un... je pense pas que... c'est pas un roman d'épouvante. Je pense pas qu'on peut qualifier Alice comme un roman d'épouvante. Mais ce qui vient en premier, oui, c'est les zones d'ombre de l'être humain. En général, dans tous mes romans, mes personnages vont quelque chose de terrible en eux, qui était en eux, mais ils ne le savaient pas, va surgir à cause d'un événement qui va venir déclencher ce monstre-là. C'est souvent ça qui est ma première motivation. Ouais.
On va passer à Steven Erickson. Steven, en ce moment, on redécouvre un petit peu le livre des martyrs en France. Grande série de fantasy. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous la présenter, parler de votre travail?
Can I present it? It is a history of an empire in a secondary world, in a place where magic works and where the gods are active in everyday affairs. I think that's fairly succinct for a 10,000-page series.
C'est l'histoire d'un empire dans un monde secondaire dans lequel la magie fonctionne et dans lequel les dieux sont actifs et du coup jouent un rôle. Je pense que c'est assez succinct pour une dizaine d'ouvrages, plusieurs centaines de milliers de mots.
Et qu'est-ce qui vous inspire? Comment est-ce que vous travaillez, vous, dans votre peau d'écrivain?
I began actually as I was an archaeologist for 18 years and with a degree in anthropology as well. And so that was part of my inspiration for the Malazan world, was to create a very, I guess, authentic world with deep history, and then to build a story on top of all of that structure and all of that underlying elements of what has gone before.
Euh, Donc moi, à la base, j'ai été archéologue pendant 18 ans et j'ai aussi un diplôme en anthropologie. Et en fait, c'est en partie ce qui m'a inspiré pour créer le monde malaséen. Je voulais créer un monde dans lequel il y aurait une histoire assez riche, assez profonde. Et au-delà de ça, créer une autre histoire qui se calque par-dessus, en fait.
Elisabeth. Alors... bibliographie foisonnante.
C'est large.
C'est large, exactement. Est-ce qu'on peut peut-être parler, par exemple, d'Hôtel Olympia ?
Oui, oh, c'est mon roman drôle.
C'est votre roman drôle.
Seul et unique. Disons qu'on y sourit quelquefois. Le personnage central, la narratrice étant, enfin, le personnage central, le point de vue principal, étant assez rock'n'roll, elle a une vision... assez carré des choses et de ce point de vue-là, ça permet des réflexions relativement amusantes et surtout ça m'a permis de la faire parler québécois, ce que je ne peux pas faire quand je traduis Guy Gabriel Kay par exemple ou quand j'écris des romans de science-fiction situés dans un futur extrêmement lointain. Dans la mesure où elle vient du Québec, même si elle n'est pas québécoise d'origine, c'est une immigrante. Ça me permettait de regarder l'Europe avec mon regard de maintenant. C'est ça.
Et comment est-ce que vous travaillez ? Parce qu'il y a de la science-fiction, de la fantasy, des jeux avec l'histoire. Quels sont un peu vos processus d'écrivain ?
D'écrivaine ?
Ouais. J'allais dire autrice.
Merci. Merci.
On y est presque.
Ça dépend vraiment des histoires. Il y en a qui me viennent avec des rêves, qui s'organise souvent en histoire plus de science-fiction que de fantasy. Il y en a d'autres qui viennent de cette espèce de rêve second. Enfin, le dernier roman, la dernière série, Les pierres et les roses, vient de la télévision. Je ne dirai pas de quoi. Je laisserai les lecteurs deviner. J'ai laissé un indice dans l'incipit du troisième tome. Non, du deuxième tome. Je suis gentille. C'est comme... mais comme Patrick ou comme tout ce que vous diront tous les écrivains, on part pas en disant bon alors aujourd'hui je vais écrire un roman de science-fiction. Non, l'histoire se construit peu à peu et à un moment donné on se dit ah oui bon bah là ça va être de la science-fiction. Quelquefois c'est clair au départ. Quand j'ai écrit Tyrannaël par exemple, qui est venu d'un rêve que j'ai fait à 16 ans, ça s'est organisé tout de suite en vaste saga de science-fiction parce que je lisais de la science-fiction de façon intensive depuis plus d'un an. Mais sinon, en général, c'est ça. Et il y a des fois, c'est bon, on va voir ce qui va se développer. Ça donne des romans comme Les Voyageurs malgré eux ou Hôtel Olympia où il y a de la science-fiction, il y a ce qui pourrait sembler être du fantastique, du policier, du roman psychologique. Donc, je ne me limite pas. C'est l'histoire qui décide.
Et puis, je le cache un petit peu, mais j'ai tort. Il a une double casquette, c'est Jean-Louis Trudel. Casquette d'écrivain, en space opéra, en fantasy, de romancier et de novelliste. Et aussi un petit guide de la science-fiction au Québec qui vient de paraître chez Alire. Alors, première question, peut-être un petit peu comme pour tout le monde, comment vous fonctionnez en tant qu'écrivain ?
Moi, j'ai surtout développé, on pourrait dire, deux univers futuristes. L'un d'eux m'appartient au complet. C'est une histoire du futur qui englobe plusieurs de mes romans pour jeunes, malheureusement pas vraiment disponibles en France, mais aussi plusieurs de mes nouvelles, dont certaines qu'on a pu lire encore récemment dans la revue Galaxie, et dans l'anthologie Créature du Festival, c'est une nouvelle qui s'inscrit dans cette histoire du futur que j'ai commencé à faire connaître, entre autres, avec les deux romans parus au Fleuve Nord en 1994. Il y a une autre histoire du futur, ou univers futuriste, celui du gros roman de space opéra Suprématie que j'ai signé avec mon ami Yves Ménard sous le nom de Laurent McAllister. Et il y a aussi un certain nombre de nouvelles qui ont été écrites dans cet univers.
Et ce petit guide alors de la science-fiction au Québec ?
Alors, ce petit guide est un avant-goût de, d'une œuvre majeure à venir, quand, j'ai le temps de la compléter. Cela fait une trentaine d'années que j'accumule des données sur l'histoire de la science-fiction comme phénomène culturel, dirais-je, au Québec et au Canada francophone. Ceci, pour ce petit livre, je me suis restreint uniquement au Québec. Et donc, beaucoup de questions des créateurs francophones, mais j'ai quand même mentionné aussi certains des créateurs anglophones de science-fiction au Québec. C'est beaucoup axé sur la littérature, sur le roman, la nouvelle, mais il est aussi un peu question de bande dessinée, de cinéma. Je commence en 1838, lorsqu'un écrivain d'origine suisse installé au Canada commençait à signer des œuvres de proto-science-fiction. Et la dernière, j'ai réussi à placer... début 2017, une mention de la nomination aux Oscars du cinéaste Denis Villeneuve pour le film Arrival.
Vous aviez un petit panorama à nous montrer.
On le garde maintenant ou pour...
Ouais, on peut y aller maintenant.
Parce que je pense que j'avais dit au responsable que ce serait vers la fin et qu'il a dit et qu'il est parti ailleurs.
C'était une présentation de la science-fiction au Québec?
Ouais, une présentation en chiffres, quelques tableaux, quelques données sur l'évolution depuis surtout ces dernières décennies, parce que la science-fiction au Québec, il ne faut pas se cacher, même s'il y a des prédécesseurs, comme je disais, dès 1838, c'est une explosion qui continue depuis les années 1970. Le nombre de textes a un peu diminué, mais le nombre de pages, le volume de la production, en fait, ne cesse d'augmenter chaque décennie.
C'est un foisonnement que vous ressentez, vous autres auteurs au Québec, où vous avez vu comment ça se concrétise, Elisabeth ou Patrick?
La littérature de genre, en général, au Québec, effectivement, il s'est passé quelque chose dans les dernières années. Moi, quand j'ai publié mon premier roman en 94, 51-50 Rue des Hommes, qui est un roman, un thriller d'horreur, il n'y en avait pas tant que ça encore au Québec. C'était pas très... Oui, il y en avait, mais c'était assez underground quand même. C'était assez... Mais là, maintenant... presque chaque maison d'édition, bah, j'exagère, mais beaucoup de maisons d'édition au Québec ont leur collection maintenant noire, ou ils vont Québec-Amérique, par exemple, va tout à coup faire un roman de science-fiction, alors qu'avant, ben, on n'allait pas trop là-dedans. On lisait beaucoup de science-fiction, de fantastique anglo-saxonne ou française, mais là, maintenant, et même les médias ont commencé à en parler. Pendant un certain temps, certains médias québécois boudaient le genre québécois. Et depuis quelques années maintenant, ben on en parle. Ben, les médias parlent moins de littérature en général depuis quelques années au Québec, mais ça, c'est un autre problème. Mais c'est pas boudé comme avant. Et même dans les universités, moi, je connais des enseignants universitaires à l'université au Québec qui vont mettre dans leur corpus des livres de genre québécois. Ce qu'il y a, il y a 30 ans, c'était pas évident du tout.
Caroline?
Oui, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'il y a aussi le phénomène, dans mon cas, moi, c'est que je n'ai pas d'étiquette. Je publie des romans futuristes de science-fiction et ce n'est pas nommé comme tel. Donc, je publie dans des maisons généralistes et je passe dans la presse comme d'autres écrivains qui ne sont pas nommés comme des écrivains de genre. Et voilà, donc on s'intéresse à la science-fiction, aux romans noirs, etc., sans leurs étiquettes aussi. Je pense que, je ne sais pas si c'est un phénomène global, si vous vivez la même chose ici en France, mais en tout cas, moi, depuis 17 ans, je le vis comme ça. Je publie des romans dans des maisons généralistes, même si ce sont des romans de science-fiction, et on ne s'attarde pas à spécifier le genre comme tel. On s'intéresse au texte, on s'intéresse au projet textuel, à la forme, plus qu'à l'étiquette. Voilà.
Si je peux me permettre le point de vue du Benjamin de cette assemblée, la littérature de genre, quand j'étais enfant, quand je voulais en lire à 10, 11, 12 ans, puis que je cherchais des auteurs que j'avais peut-être une chance de rencontrer, c'était presque impossible. Il y a eu chez la collection Jeunesse Pop, chez Mediapol, puis je pense que c'était tout. Puis tranquillement, au milieu des années 90, ça s'est mis à exploser. Les années 2000, il y a eu un plateau extraordinaire, puis je l'ai vraiment senti en voyant ma pile à lire qui s'est mise à monter d'auteurs québécois.
Est-ce que c'est la même chose pour le Canada, la partie anglophone? Est-ce que vous ressentez le même foisonnement?
I think so. I think the comment I wanted to make regarding a Canadian not from Quebec is that my sense is the province of Quebec treats its artists better than any other province in Canada. So that's the outside view on this. I think it's a recognition that there is great cultural value in the arts that are produced in Quebec, in Quebecois. And quite often in other provinces, we don't get that kind of recognition because there's a kind of pervasive or diffusion of points of view that spread into the American sensibilities and the English sensibilities. But then I'll get to your question.
I didn't get what you said at first.
Oh, no.
Sorry. My sense is that...
Quebec treats its artists better than the province.
Oui, moi j'ai effectivement le sentiment que le Québec traite mieux ses artistes en fait que les autres provinces. Après, moi je dis ça de mon point de vue un petit peu extérieur du coup du reste du Canada, et je pense que il y a une grande valeur culturelle de ce qui est produit en l'occurrence par les Québécois. Et dans les autres provinces, bien souvent, on n'a pas cette reconnaissance nous dans les autres provinces du Canada. Et ça se diffuse bien plus du coup dans les publics américains du coup.
I suspect in terms of fans and readers there is a kind of a growing or groundswell of fantasy and science fiction in English Canada. But at the same time I'll give you an example. I was living in Winnipeg for a number of years while I was writing the Malazan series. And all the years I was living there, myself and one other writer who were full-time writers. It was Susie Maloney, who was writing thrillers and sort of Stephen King-style novels. In all the years we were there, we were not once invited to the Winnipeg International Writers Festival. So as genre writers, this is what happens.
Oui, je pense que parmi les fans, en fait, il y a un engouement qui est de plus en plus prononcé pour la science-fiction et le fantastique. C'est vrai que moi, pour ma part, je vais vous donner un exemple. Moi, j'y vais à Winnipeg lorsque j'ai créé le monde malaséen. Et j'ai passé beaucoup d'années là-bas avec une écrivaine qui est Susie Maloney, qui écrivait aussi un peu dans le style de Stephen King. Et pendant toutes les années où on était là-bas, en fait, pas une seule fois, on a été invité au festival de littérature de Winnipeg.
And I live in British Columbia now, and to date, I have yet to be invited to an international writers' festival anywhere in Canada. So.
Et aujourd'hui, je vis en Colombie-Britannique, et en fait, c'est pas non plus du tout une garantie d'être invité aux festivals internationaux.
Malgré 3,5 millions de livres vendus, on est.
Yeah, but they were fantasy novels, right? Yeah, I actually feel more affinity with. I lived in the UK for a while with my fellow British writers. I feel a lot of affinity with my fellow American writers within the genre because these are the people I meet. But within the cities in Canada, it's a rare thing to be invited to these things.
Oui, effectivement. Mais enfin bon, c'était des romans de fantasy. Hein. Moi, j'ai vécu quelques années au Royaume-Uni et en fait, j'ai plus d'affinité avec les Américains que j'ai rencontrés là. C'est quelque chose de plus rare en fait au Canada.
Quels sont vos liens avec le monde anglo-saxon, donc le Canada? Elisabeth, vous avez été primée au Philippe K. Dick, au prix Philippe K. Dick. Est-ce qu'il y a des accointances avec le monde anglo-saxon ou la partie anglaise du Canada?
Dans les années 70 et 80, on a essayé au Québec, le fandom québécois a vraiment essayé d'établir des liens avec les fandoms canadiens-anglais. À l'époque, il y avait moins d'auteurs de genre canadien-anglais et le contact avec le milieu américain ne s'était pas fait à ce moment-là. Donc ils étaient moins publiés, ils étaient moins... Bon. Et à ce moment-là, ça marchait très bien. Enfin, on se sentait des affinités parce que justement, on se sentait les petits à la table. Et bon. Je dois dire que dans les années qui ont suivi, les liens se sont distendus. Et même avec la communauté anglophone du Québec, et elle est importante au Québec, on n'a pas des liens extraordinaires, je dois dire. C'est peut-être mon impression, peut-être que d'autres auront... Non ? Oui ?
Dans mon cas, mes deux derniers romans, le dernier sera traduit bientôt, et Sous béton a été traduit en anglais, au Canada anglais, dans les deux cas. Mais c'était dans des maisons généralistes. Donc, encore là, c'est pas dans les maisons de genre. Et donc, je vis le même phénomène au Canada anglais qu'au Québec. Donc, mes romans passent en littérature généraliste, même si c'est de la science-fiction. Et c'est le même genre de réception qu'au Québec. Donc, j'aimerais préciser que les jeunes maisons d'édition, là où je suis publiée, où j'ai publié Sous béton et mes trois derniers romans, il y a beaucoup d'efforts faits pour entrer en contact avec et le Canada anglais et l'Europe et le reste du monde. Donc, on a des jeunes éditeurs qui vont à la rencontre à l'international d'éditeurs un peu partout. Et il y a toutes sortes de nouveaux contrats de traduction qui apparaissent. Et ça se peut. Mais il faut avoir les éditeurs qui se promènent et qui vont proposer nos projets. Voilà.
Oui, ben Jean-Louis, et puis après...
Bon, j'ai été président de SF Canada, l'association canadienne des écrivains de SF plus ou moins professionnels, pendant quelques années, durant les années 90. Et je suis encore quelqu'un qui maintient le contact, mais je suis effectivement à peu près un des seuls francophones à être dans certains des congrès anglophones du Canada anglais, de science-fiction, de l'imaginaire. Il y a quand même des auteurs francophones qui parfois écrivent en anglais, comme Yves Ménard qui est ici, et qui parfois le font de façon exclusive. Maintenant, on a par exemple Sylvain Neuvel au Québec, il y a Marie Bilodeau qui s'est établie en Ontario, il y a Claude Lalumière qui s'est établie en Ontario, il y a peut-être une... et Yves Ménard s'est établi en Ontario, simplement pour faire la rime. Mais qui, dans certains cas, Yves continue à écrire en français et en anglais. Marie, Sylvain semblent avoir décidé de ne travailler qu'en anglais. Mais ce sont effectivement justement des écrivains qui entrent dans la communauté anglophone, publient aux États-Unis. Et ça m'amène à parler un peu aussi justement de peut-être une des raisons pourquoi les liens se sont distendus. Il y avait effectivement un rapprochement, Elisabeth le souligne, me le souligne dans l'oreille, au niveau du fandom. Fandom qui en partie a évolué vers une professionnalisation parce qu'il y avait des gens comme Candace Jane Dorsey qui se sont mis à écrire à temps plein, qui ont même participé à la fondation d'une maison d'édition. Mais une des raisons peut-être pourquoi les liens se sont distendus, c'est que le Canada anglophone n'a jamais développé une véritable industrie propre d'édition spécialisée dans les genres de l'imaginaire. Il y a une ou deux petites maisons d'édition, il y a eu quelques tentatives, mais les auteurs canadiens-anglais qui sont quand même reconnus parfois, surtout s'ils ont pu échapper un peu au ghetto dont parlait Steven Erickson. On a Margaret Atwood qui a fait des pieds et des mains pour échapper à tout rattachement à la science-fiction, mais qui néanmoins donc est reconnue maintenant comme une autrice de science-fiction. On a des gens comme Robert Sawyer et Guy Gabriel Kay qui, je pense, ont reçu l'ordre du Canada, donc un peu l'équivalent de la Légion d'honneur. Donc il y a cette reconnaissance qui maintenant atteint un certain niveau, mais je pense que si les francophones, pour qu'il y ait un flot vers le Canada anglais, il faudrait qu'il y ait des maisons d'édition capables de, disons, spécialisées, capables de recevoir les œuvres francophones. Et comme il y a seulement deux ou trois petites maisons très sympathiques qui ont effectivement publié à l'occasion, bon, des traductions d'Elisabeth, un recueil d'Yves Ménard, mais ça reste très isolé parce que le gros de la communauté canadienne anglophone est tourné vers les éditeurs professionnels de New York, à la limite du Royaume-Uni. Et donc, et là, du coup, si les Canadiens français veulent aller dans cette direction, il faut qu'ils rivalisent avec essentiellement tous les auteurs canadiens anglais, tous les auteurs anglophones et tous les auteurs, et maintenant que Liu Cixin et que les Français commencent à, comme Aliette de Bodard commence à publier là-bas, c'est une concurrence mondiale.
Sébastien?
Moi, je n'ai pas été traduit, mais j'ai eu quelques beaux accueils dans des écoles anglophones qui ont utilisé mon roman en enseignement de français langue seconde. Néanmoins, je suis persuadé que c'est à cause de la thématique très historique québécoise. J'ai pas l'impression que j'aurais eu ce même accueil si j'avais parlé d'une fantasy d'inspiration médiévale européenne, par exemple. Reste néanmoins qu'il s'est développé par des lecteurs anglophones qui ont lu en français langue seconde une certaine curiosité pour ce qui se faisait en français.
Une question, alors on va revenir au français, peut-être au lien avec la France. Pour Patrick et pour vous, Caroline, est-ce que l'accueil est le même en France qu'au Québec, par exemple, vous qui avez été publié dans l'Hexagone?
Je tiens à préciser qu'il n'y a eu aucun changement dans mon texte. Parfois, c'est le cas, on change, mais dans mon roman, il n'y a pas eu.
Je vais me jeter dans la rivière et puis je reviens. en termes d'accueil dans l'Hexagone, est-ce que ça a été la même chose ou les mêmes tonalités par rapport au Québec?
Dans mon cas, il y a eu des changements. Moi, mes romans sont très québécois dans les dialogues, vraiment très, très, très québécois. C'est quelque chose que je revendique, que j'assume, et je me suis battu pendant des années avec des maisons d'édition françaises qui voulaient reprendre mes romans, mais qui voulaient altérer un peu certains dialogues, enlever certaines expressions, bon, des trucs comme ça, et à chaque fois, je disais non, je veux pas. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais le perdre, ce combat-là. Qu'est-ce que ça donne de m'entêter? Je vais être en train de mourir sur mon lit de mort, et je vais dire, j'ai résisté, mais j'aurais jamais été publié en France, alors à quoi bon? J'ai accepté quelques petits ajustements, mais on s'entend, c'est quand même mineur. On sent que ça se passe au Québec. Pour ce qui est de l'accueil, évidemment, j'ai pas encore le succès que j'ai au Québec. Au Québec, ça va très bien mes affaires. Ici, c'est pas encore ça. Et ça arrivera peut-être jamais comme ça non plus. Là, j'en sais rien. Mais ce que je me rends compte, c'est que les gens qui aiment ce que je fais ici aiment pour exactement les mêmes raisons, finalement, que ceux qui aiment ce que je fais au Québec. Ils aiment le côté thriller, ils aiment le côté horrifique, ils aiment le fait qu'ils embarquent, qu'ils ont l'impression que... Bon, enfin, c'est universel, tout ça. Il n'y a pas de... on aime les mêmes choses quand on lit un livre de genre, quand on lit un thriller, quand on lit un livre d'horreur. Et j'imagine que quand on lit un livre de science-fiction, de fantasy, on aime les mêmes choses, peu importe le pays d'où on vient. Donc... Ça rejoint les gens pour les mêmes raisons. Ça n'en rejoint pas encore autant, mais ça en rejoint exactement pour les mêmes raisons.
Caroline?
Moi, c'est tout récent. Hein. Le roman a été publié il y a à peine un mois. Mais les critiques, jusqu'à présent, j'ai des belles surprises. Je pense que la compréhension est plus fine dans certains cas que ce que j'ai connu au Québec. Et j'ai des retours de lecteurs qui sont passionnés par le texte, et j'avais pas vraiment connu ça au Québec. Donc non, je suis agréablement surprise par ce qui se passe en ce moment avec ce texte-là. Mais comme Patrick, c'est la même chose. Il y a des gens, j'ai lu quelques blogs où il y a des lecteurs qui ont interrompu la lecture du roman parce qu'ils trouvaient ça trop suffocant. Ils pouvaient juste pas. C'était trop suffocant. Et j'ai eu la même chose au Québec. Donc il y a des réactions, il y a des réactions semblables. Mais je dirais qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant, notamment avec ActuSF. J'ai eu une entrevue il y a quelques semaines, et les questions qui m'ont été posées étaient extrêmement pertinentes. Ah oui, je tiens à le préciser. Donc j'ai pu exprimer, j'ai pu aller beaucoup plus loin dans l'explication de ce qui m'anime à travers ce texte-là. Et donc en ce sens-là, je suis comblée. Voilà.
Merci. Jean-Louis, autour de la table, on a du thriller, du fantastique, de la fantasy, on a de la science-fiction. Est-ce que ça représente le foisonnement global, la diversité des genres au Québec pour les auteurs?
Oui, pardon. Oui, je dirais absolument. Nous avons, c'est ça, d'une part, C'est une des choses peut-être que j'aurais justement illustré, à l'écran, c'est entre autres la montée de la production pour les jeunes, ce que nous n'avons pas vraiment de représenté ici en ce moment. J'ai été écrivain pour les jeunes plutôt au tournant du siècle, ce qui fait déjà un certain temps. Et la production jeunesse, par exemple, c'est celle qui voit, je dirais, le plus de développement de la fantasy. Il est plus dur d'identifier de véritables œuvres de fantasy pour adultes. Le fantastique, bien représenté par Patrick et Sébastien, est effectivement, peut-être même, je dirais, du point de vue des ventes, en tout cas, peut-être la dominante. Je mets pas le polar dans les genres de l'imaginaire, mais oui. Quoique, comme la fantasy pour jeunes connaît une telle montée que ça serait intéressant d'avoir les chiffres, mais évidemment les chiffres ne sont pas toujours révélés par les éditeurs. Et la science-fiction est quelque chose qui peut-être connaît du point de vue adulte et du point de vue de la production de nouvelles un certain ralentissement, mais il est compensé par la montée de la science-fiction pour les jeunes. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé ici, mais moi ce que je vois, c'est effectivement beaucoup de titres arrivés et parfois des excellents titres dans la production de science-fiction pour jeunes.
Alors on me dit dans l'oreillette que le diaporama est prêt, si tu veux nous en parler. Alors, il va être diffusé là, si tu veux peut-être.
Non, vous ne le verrez pas. On va essayer rapidement, c'est ça, de regarder rapidement. Première diapo. Oui, c'est. Je n'ai pas ma télécommande avec moi, donc vous voyez la science-fiction canadienne en français. Donc ceci est une présentation. Lorsque nous verrons la première diapo. Ça, c'est juste le titre. La première diapo, donc, il s'agit en fait de s'intéresser à la production de la science-fiction. Donc, ça n'inclut pas le fantastique, ça n'inclut pas la fantasy. Donc, il va falloir, je pense, bientôt simplement l'imaginer, ces diapos en question. Oui, voilà. Enfin, la première diapo donne les chiffres, essentiellement. J'ai recensé quelque chose comme 3300 textes de science-fiction depuis les débuts, de 1838 à 2018. Ça inclut à peu près 1 000 000 de romans, à peu près 2 000 nouvelles. Et les autres textes, c'est un petit assortiment de poèmes, de théâtre. La diapo après.
C'est beau la technique.
Eh oui, la technique.
Attends, il ne trouve pas le fichier. Raconte-nous.
Oui, on va faire un petit.
Quel est notre rapport à la technologie?
Exactement, on va lancer une question simple.
Ça va arriver incessamment sous peu.
Si quelqu'un a une chanson pendant.
C'est bon, ça a apparu.
Ah! Ça met un peu de suspense, c'est bien.
Je vous avais effectivement à peu près donné les chiffres que vous voyez à l'écran. J'avais aussi noté, donc, on voit un peu la présence du roman pour jeunes, 22%, sur toute la période. La science-fiction, elle, et d'ailleurs ça permet de parler un peu de cela, est dominée par des auteurs masculins, 72%. 75% d'hommes essentiellement, 25% de femmes. Mais c'est quelque chose qui évolue. Et les répartitions sont différentes selon mes données dans les autres genres. Le fantastique est plus égalitaire, la fantasy même peut-être encore plus. La dernière partie parlait un peu de où sont publiés ces textes, Montréal surtout. Prochaine diapo, on va croiser les doigts. Ah! Donc là, on voit justement ce que je disais tout à l'heure, l'explosion. Depuis les années 70, on a une explosion, c'est mesuré en termes de nombre de pages. Le nombre de textes avait aussi explosé à peu près à cette période-là. Un peu plus élevé que le nombre de pages, il y a même une décrue, mais ça, ça correspond en fait au fait que on parle, ça inclut les nouvelles. Les nouvelles sont devenues moins nombreuses, mais les romans sont devenus plus gros, et donc ça, ça a plus que compensé. On a parfois eu l'impression dans le milieu que la science-fiction était en perte de vitesse, mais quand on regarde le nombre de pages, ce n'est pas ça. Prochaine diapo. Là, on a sauté une diapo. Là, c'était donc, oui, celle-ci. Donc, selon le public, là, on voit la montée de l'ASF pour la science-fiction pour jeunes, qui, mon Dieu, commence presque à converger avec la science-fiction pour adultes qui a connu une décrue et maintenant une stabilisation. Prochaine diapo. Et celle-ci, c'était justement la répartition des genres. On voit que justement, il y a une tendance. Par contre, comme le nombre de les hommes restent majoritaires, mais durant les années 2010, donc ils ne sont pas encore tout à fait terminés, les hommes ne représentent plus que 60% des auteurs de science-fiction. Je rappelle que c'est uniquement de science-fiction. Et ça continue à augmenter légèrement pour donc le nombre d'auteurs féminins, et ça pourrait converger d'ici quelques années. Prochaine diapo. Suspense. Oui, là, ça devient plus spécialisé, ça intéressera à la limite plus les Canadiens, mais ça permet quand même de mentionner le rôle des revues. C'est-à-dire que là, c'est quelles revues spécialisées au Québec et au Canada francophone ont publié le plus de textes. On voit évidemment que Requiem Solaris, c'est-à-dire Solaris qui s'appelait autrefois Requiem, qui est maintenant la revue francophone la plus ancienne encore en activité de science-fiction au monde. Donc, aucune revue française n'est plus vieille. Publié presque 400 textes de science-fiction et bien sûr beaucoup d'autres textes de fantastique, de fantasy, même d'horreur. Patrick Sénécal a publié dans Solaris. Il y a Imagine qui vient ensuite, Brin d'éternité. Et après, on tombe soit dans des fanzines ou des revues de littérature générale comme XYZ, L'écrit primal, Möbius, mais aussi des fanzines comme Samizdat, Brin d'éternité s'est professionnalisé, ou Pour ta belle gueule d'Ahuri qui apparaît encore dans les 10 premiers. Prochaine diapo. Là, on va parler des éditeurs. Ça inclut les éditeurs de revues. Alors, ça peut paraître un peu surprenant de voir, en fait, trois éditeurs complètement inconnus du bataillon, parce que les Imaginoïdes, Publicu et les Compagnons à temps perdu. Mais les Imaginoïdes ont surtout publié la revue Imagine, et tous les textes, les nouvelles qu'il y a là-dedans, mais aussi quelques recueils. Publicu, c'était l'éditeur de Solaris à une certaine époque. Les Compagnons à temps perdu qui ont pris la relève. Après, on trouve des éditeurs pour jeunes. Pauline Médiapol, Pierre Tisser, un éditeur de littérature générale, Québec-Amérique. Et en septième place, on trouve un éditeur à lire qui, parce qu'il publie surtout des romans, a un total un peu plus bas, alors que les autres, c'est des romans jeunesse et surtout beaucoup de nouvelles. Après, je sauterai les autres éditeurs, mais les livres à lire sont présents ici. Prochaine diapo, qui je pense est la dernière. Alors ici, comme j'avais des chiffres, j'ai essayé de faire un classement en termes de prolificité. Donc, qui sont les auteurs qui ont publié soit le plus de textes dans la première colonne, ou soit le plus de pages. Bon, les pages, le nombre de pages, c'est une mesure du poids des livres, du poids des recueils, alors que la mesure des textes tient plutôt compte, on pourrait dire, est dominée par le poids des nouvelles. Et on voit que, bon, par exemple, Jean-Louis Trudel, Isabelle von Arbour, Yves Ménard se retrouvent dans les trois ou quatre premiers, dans cette catégorie. Rappelons que c'est juste la science-fiction. Ce sont donc des noms qui sont connus des amateurs de science-fiction au Québec, comme Francine Pelletier, Jean-Pierre April, Daniel Cernin, Michel Libellin, Michel Laframboise. Jacques Brossard, par la taille de son œuvre, mais pas nécessairement par le nombre de titres, apparaît dans la deuxième colonne, et c'est quelqu'un dont vous trouverez les œuvres complètes à la table d'Alire, par exemple. Il est mort il y a quelques années, il a donné son nom à un prix littéraire, qui est un prix littéraire richement doté. Alors voilà, c'était ma petite présentation, j'espère ne pas avoir été trop long, mais ça peut vous donner aussi quelques indications à suivre.
Bravo. T'as pas la... Tu n'as pas la liste des auteurs qui ont utilisé le plus souvent la lettre R, non? Tu n'as pas ça? Non? OK.
Il nous reste à peu près 4 minutes. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à nos auteurs du Québec ou du Canada? Oui, c'est vous.
Oui, ben c'est le nombre de textes et effectivement c'est les nouvelles et effectivement c'est bien réel. Ça correspond essentiellement à la fondation de revues à la fin des années 70. Et puis ben moi je compte les textes originaux. Alors les anthologies ne pèsent pas nécessairement tant que ça, mais il y avait aussi des recueils et des anthologies de textes originaux. Tout cela fait que il y a eu un gros marché pour la nouvelle au Québec, au Canada francophone durant les années 80. Et donc, on est parti d'une situation où il y avait une sorte de découverte de la science-fiction dans les années 70 au Québec, avec l'arrivée parfois d'expatriés français comme Elisabeth von Arbourg, Norbert Spanner, qui ont répandu la bonne nouvelle, Jean-Marc Gouanvic aussi. Et une fois qu'il y a eu des débouchés, et dans un contexte où la nouvelle elle-même bénéficiait en général, dans la littérature générale québécoise, d'un primat, d'un respect qu'elle a perdu depuis. Mais, et donc, dans les années 80, c'est ça, tout ça a concouru à faire une sorte de boom de la nouvelle de science-fiction et d'ailleurs aussi d'autres nouvelles. Ah, bonne question. Je ne suis pas sûr que j'aimerais formuler une opinion là-dessus. Moi, je pense que peut-être, disons à la limite, comme je suis un éternel optimiste, je vais me dire que avec le boom de la science-fiction pour jeunes, certains de ces lecteurs vont peut-être se mettre à écrire des nouvelles dans quelques années.
Ils vont finir par grandir. Est-ce qu'on a une autre question ? Une fois, deux fois, trois fois. On va laisser la prochaine conférence s'installer. Merci à nos auteurs et puis vous les retrouvez tout de suite en dédicace.